franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, quelle est la différence entre vénéneux et venimeux avec Franceline Marano?
Alors, les animaux venimeux, ce sont des animaux qui, de façon active, en produisant donc une substance toxique, un venin, vont pouvoir l'inoculer. Donc c'est à des fins de destruction d'un autre organisme
directement.
Pour se nourrir directement. Donc ils agissent sur l'organisme par morsure. Bon, c'est le serpent bien sûr, par piqûre, c'est la guêpe. Ça on le sait bien, mais il y a aussi d'autres animaux venimeux qu'on connaît moins bien, par exemple des poissons qui peuvent être venimeux et donc qui aussi agissent par injection. Et puis vous avez
Animaux vénéneux aussi, on peut en trouver alors ?
Ah oui, il y a des animaux vénéneux, c'est-à-dire que donc dans le vocable vénéneux, on met en fait un autre sens, c'est-à-dire que l'animal, la plante donc fabrique une substance, mais donc ça n'est pas volontaire l'inoculation. En fait, c'est parce qu'on va toucher l'animal, c'est le contact, ou bien on va ingérer la plante. Ça peut être aussi des micro-organismes qui fabriquent des substances toxiques, des toxines, et qu'on va ensuite ingérer, et qui peuvent rendre l'organisme qui les a ingérés, que ce soit un homme ou un animal, extrêmement malade. C'est le cas de ce qui se passe, par exemple, quand vous mangez des moules ou des huîtres, quand on sait qu'il il ne faut pas, parce que c'est en général détecté, ça, ce sont des toxines que la moule ou l'huître absorbe avec une algue, qui provoque cela. C'est pas l'algue elle-même, donc ça n'est pas la moule ou l'huître qui est responsable directement de cela.
Mardi, théorie de l'évolution, comment Darwin a failli se faire voler la vedette par Wallace, avec Marc Giraud et Jean-Baptiste de Panafieux.
Sa Amniotée, il l'avait déjà à peu près au point, mais ça a attendu à peu près 20 ans avant qu'il la publie, et il ne l'a publié que parce que Wallace, l'autre inventeur de la théorie, allait publier la même chose.
Ouais.
Donc il avait très très peur, il en faisait des cauchemars de sa théorie. Il avait très peur de l'Église, de perdre son statut social, parce que c'était quand même un bourgeois bien installé, il n'avait pas envie de changer de vie.
Ouais. Wallace, c'est quand même incroyable, Jean-Baptiste de Panafieux, c'est-à-dire qu'un autre homme ailleurs a exactement la même intuition que lui, et va construire quasiment la même théorie, mais c'est Darwin qui va arriver le premier finalement sur la ligne d'arrivée.
Alors, d'une certaine façon, Wallace avait proposé un article où ses idées étaient déjà exposées, et Darwin a été horrifié parce que ça ressemblait tellement à ce sur quoi il travaillait depuis 20 ans qu'il savait plus quoi faire. Ses amis l'ont convaincu de discuter avec Wallace, et Wallace était extrêmement honoré de pouvoir discuter avec Darwin qui commençait déjà à être connu. Et puis par la suite, alors les deux articles courts ont été publiés en même temps. Ça intéressait personne parce que c'était, il n'était pas encore temps. Et Darwin s'est dépêché d'écrire son premier livre, enfin le plus célèbre, L'Origine des espèces. Par la suite, Wallace a continué dans sa direction et a dit des tas de choses intéressantes. Il y a quand même un point sur lequel Wallace s'est arrêté, c'est l'homme. Darwin considérait que l'homme avait la même origine que les autres animaux et qu'il fallait considérer son origine comme celle des animaux par ses sélections naturelles ou sélections sexuelles, puisqu'il parlait de l'importance du sexe dans l'évolution. Et voilà, s'est arrêté là et a dit non, l'homme, c'est pas possible. Il était spiritualiste et l'esprit était différent. Et donc, on voit là la différence entre celui qui va jusqu'au bout de ses idées et celui qui avait des intuitions fulgurantes. Puis un travail énorme, voilà, ça a énormément travaillé, était passionnant, mais il s'est arrêté en cours de route.
Ça l'effrayait lui-même d'ailleurs, Darwin, d'aller aussi loin au fond dans sa théorie.
Peut-être, mais il était honnête. Donc, il a été effrayé avant de publier son truc, mais une fois que c'était lâché, donc il s'est défendu bec et ongles quand même.
Il était un peu effrayé des réactions qu'il allait susciter, mais ça l'a conduit à accumuler les preuves, un maximum d'arguments. C'était ça l'a poussé à aller jusqu'au bout de toutes ses démonstrations.
Mercredi, troubles du désir, quels sont les motifs de consultation aujourd'hui avec le sexologue Philippe Breneau.
Ce ne sont pas forcément des troubles sexuels, mais ce sont des troubles qui s'expriment au niveau de la sexualité. Par exemple, un trouble émotionnel, mais je vais le ressentir, parce qu'il y a deux ou trois systèmes qui sont très sensibles aux variations des émotions. C'est le sommeil, la sexualité. Mais l'évolution, depuis une trentaine d'années, l'évolution des demandes est très claire. On l'a vu pendant longtemps, c'était des difficultés de réalisation du couple. Il n'y avait pas des choses très très affirmées. Quand sont arrivés les produits qui ont réglé les problèmes masculins, on a vu augmenter ces demandes parce qu'il y avait une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des solutions pour la plupart des hommes, jeunes ou plus âgés. Ensuite, on a vu que les troubles du désir, comme on n'arrivait pas à les résoudre, eh bien, étaient dominants, je veux dire, dans les 15 dernières années. Mais depuis 5 ou 6 ans, ce que l'on entend et qu'on n'entendait absolument pas, c'est des troubles de l'orgasme, du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est une évolution médiatique, c'est-à-dire que la société s'est focalisée sur le plaisir. On s'occupe presque plus de désir, et d'une certaine façon, ça devient une sorte de pathologie, avec une nouvelle discrimination que personnellement je dénonce, qui est assez misogyne, c'est-à-dire que des femmes qui jouiraient pas profondément, vaginalement, sont dévalorisées, et j'ai vu des ruptures qui se font, des hommes qui ne supportent pas que une femme soit pas pleinement orgasmique. Il y a quelque chose de compliqué dans notre société aujourd'hui, de cette focalisation autour de l'orgasme. Vous avez entendu parler de... On a parlé beaucoup de point G, d'orgasme, et c'est permanent aujourd'hui.
Jeudi, l'éco-citoyenneté ou comment faire rentrer l'écologie dans nos maisons, avec Baptiste Mont-Saint-Jean.
Donc l'éco-citoyenneté, c'est un concept un peu slogan qui apparaît effectivement dans les années 70-80 et qui consiste à associer la dimension individuelle, la pratique individuelle à des actes potentiels de protection de l'environnement. Ça va de fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents à éteindre la lumière quand on sonne d'une pièce. Tout ça, c'est des...
C'est des petits gestes, les petits gestes.
Une politique des petits gestes qui semble être de l'ordre du bon sens. Mais
et qui trouvent leur place, visiblement, dans ce dispositif.
Et qui trouvent tout à fait leur place dans ce dispositif. La question que je cherche à poser, moi, c'est dans quelle mesure cette politique des petits gestes était une façon pour faire passer au second plan la question des racines politiques, techniques, économiques, liées au phénomène que, précisément, ces petits gestes sont censés résoudre. J'ai le sentiment qu'il y a eu là une forme de stratégie, de dénégation des racines, une forme de mise au second plan, pour leur dire de la même façon, de cet enjeu épineux des causes politiques, des choix qui ont été faits.
En tout cas, ça a été la vertu, ça a été de faire entrer l'écologie dans les maisons, quand même.
Absolument. Alors,
parce que là, il a fallu vraiment s'organiser aussi pour trier nos déchets.
La question qui se pose, c'est de quelle écologie s'agit-il ? On peut dire que d'une façon ou d'une autre, le déchet a été le cheval de Troie de l'écologie au quotidien. Une façon de faire rentrer dans la maison, effectivement, cette question écologique. Peut-être que c'est une certaine écologie qui envisageait sur le mode de la croissance verte, sur le mode de la consommation durable, pour utiliser d'autres slogans, de continuer à faire comme avant, ou presque comme avant, tout en essayant, d'une façon ou d'une autre, de préserver la planète. Ce que j'essaie de démontrer, là encore, c'est que cette écologie-là a pris le dessus sur peut-être une tendance plus critique, plus radicale. Je pense aux travaux d'Ivan Illich, je pense aux travaux de Jacques Ellul, qui... très largement ont participé à questionner les racines techniques, industrielles de la crise écologique.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.